Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Le XVIIIe siècle est celui de la curiosité des collectionneurs des cabinets d'histoire naturelle. La grande passion de l'époque est l'acquisition de connaissances scientifiques et technologiques pour mieux connaître la nature. C'est ainsi que des voyageurs français ont témoigné d'un intérêt particulier pour la flore et la faune levantine. Au cours de leur pérégrination, souvent financée par l'État français, ils ont étudié, décrit, collecté quantité de différentes espèces végétales au péril de leur santé et souvent même de leur vie. C'est le cas d'André Michaud qui partit de France en 1782, rallia la Perse après avoir traversé la Syrie et la Mésopotamie, envoyé par le gouvernement pour une mission botanique. Et c'est l'un de ses descendants, Régis Pluchet, qui s'appuyant sur des lettres et divers documents d'archives, nous conte son incroyable odyssée, passionnant récit, qui nous offre cet auteur sous le titre André Michaud 1782-1785, l'extraordinaire voyage d'un botaniste en Perse, ouvrage édité chez Privat. Et j'ai le plaisir d'accueillir Régis Pluchet à ce micro. Voilà, là je suis allée un peu vite, mais on a tellement de choses à vous demander. Alors Régis Pluchet, bonjour d'abord.
Bonjour.
Alors voilà, vous avez fait un travail de recherche extraordinaire et passionnant. Vous êtes l'arrière-petit-neveu d'André Michaud. Arrière, je suppose.
Oui, même plus encore.
Ouais. Plus encore, oui. Bon, on va pas, puisque ça, on remonte à 1782. Et vous avez eu accès à des documents familiaux,
Non, dans la famille, on savait qu'il avait existé. Mais on connaissait pas grand chose de son histoire. On était peut-être deux ou trois à avoir lu des notices biographiques dans des dictionnaires du 19e siècle. Mais c'est.
De papier, point.
Rien du tout. Par contre, on savait, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il avait été laboureur dans une ferme du château de Versailles. C'est à l'époque, il y avait 30 fermes dans le château de Versailles. Mmh. Et avant de devenir botaniste, et son frère lui avait ensuite succédé, et ça on le savait très bien parce que nous sommes les descendants de son frère.
D'accord. Voilà.
Donc
d'accord.
200 ou 300 descendants de son frère.
Voilà. Alors on va parler de évidemment d'André Michaud, mais donc vous avez eu accès, il y a des archives de toute façon.
Voilà, il y a des archives. Des archives, il y en a à Versailles. Donc moi, je suis originaire de Versailles comme André Michaud, ce qui
veut dire quand même,
ce qui facilite certaines choses. Bon, je n'habite plus à Versailles depuis très longtemps, mais j'avais encore mes parents, j'allais à Versailles presque toutes les semaines pour mon travail de journaliste. Mmh. Et je pouvais de temps en temps aller consulter son journal de voyage en Perse qui est à la bibliothèque municipale de Versailles. Donc c'est un journal manuscrit.
D'accord. Qui n'a pas été édité?
Non, parce que il est incomplet. Il n'avait pas eu le temps de vraiment le rédiger. C'est plutôt des notes de voyage. Donc, ça n'est peut-être une publication scientifique serait intéressé à publier ça, mais c'est pas lisible comme ça. Il faut l'interpréter.
Quand vous dites qu'il n'a pas eu le temps de le rédiger vraiment, moi, quand j'ai vu à quel âge il est mort, je me dis mais. Quelle vie remplie, il est mort à 58 ans ou quelque chose de ce genre.
Ou 56, hein.
Ou 56 ans, mais il a eu une vie tellement riche. En revanche, il y a des lettres, mais là aussi, malheureusement, il y a beaucoup de lettres qui se sont perdues aussi.
Oui, il y en a quelques-unes à Versailles, mais il y en a surtout une bonne centaine, et peut-être même 200 avec ses correspondants et l'administration et tout ça, c'est qui se trouve aux Archives nationales ou un petit peu au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et donc, mon travail étant à Paris aussi, même si j'habite, bon, je peux vous dire, j'habite près du Mans, donc c'est pas tout à fait à côté, mais je pouvais aller de temps en temps
consulter,
ouais. Et puis j'ai terminé mon livre, enfin une grande partie, toute la rédaction s'est faite depuis que je suis à la retraite.
D'accord, vous avez eu plus de temps.
Voilà.
Alors, en parlant de temps, je me suis dit, mais quand on regarde, c'était, en fait, son voyage s'est terminé 4 ans avant la Révolution française.
Hein, voilà.
Il allait y avoir vraiment un chambardement incroyable. Et là, il est botaniste, et je trouve ça formidable que vraiment on puisse encore, on peut rien prévoir dans la vie.
Oui, mais je peux quand même anticiper, puisque vous faites allusion à la Révolution française, sur ce que je raconterai peut-être dans un second livre, mais en tout cas que j'ai résumé à la fin de mon livre, c'est que son voyage en Perse a été un tel succès qu'il a été envoyé aux États-Unis, qui venait juste d'être indépendant, pour chercher des arbres pour la France.
Il y est resté.
Il est resté 11 ans. Et il a été, quand la République, donc il est parti en 1785, mais en 1792, quand la France est devenue une République, le premier ambassadeur de la République française, ambassadeur pour la République des États-Unis, est arrivé. Et l'a chargé d'une mission secrète sous couvert de sa mission scientifique.
Voilà. On parlera d'ailleurs, j'espère qu'on aura le temps, mais comme vous écrirez un second livre, vous reviendrez nous en parler.
Voilà.
Mais on pourra parler quand même. Il a laissé quand même beaucoup de choses en Amérique, et il y a beaucoup d'institutions qui ont son nom, qui portent son nom, d'après ce que j'ai compris. Revenons à lui quand même. Donc, laboureur comme son père, mais quelle trajectoire! Il a passé un brevet de botaniste et il est devenu correspondant du Jardin Royal des Plantes à Versailles. Je ne savais pas qu'on disait correspondant.
Non, c'est correspondant du Jardin Royal des Plantes à Paris.
Ah, à Paris.
Ah, c'est pas facile de s'y retrouver dans les appellations.
D'accord, c'était à Paris.
Le Jardin Royal des Plantes, c'est le Jardin des Plantes aujourd'hui, celui qui dépend
d'accord.
du Muséum
oui,
National.
Oui, d'accord,
voilà.
D'accord.
Mais à l'époque, quand on parlait de Jardin Royal, en fait, le jardin était l'institution, donc c'était déjà
d'accord.
le muséum.
Oui. Ah,
c'était
oui.
pas seulement le jardin, c'était aussi le lieu d'enseignement et de recherche. C'est pour ça qu'il est correspondant d'un établissement et pas simplement d'un jardin.
D'accord. Alors, comme on fait appel à un moment donné à l'appui de Marie-Antoinette, j'ai cru que ça se passait à Versailles. Alors, évidemment, on voit quand même que c'est un homme intelligent, curieux, aventurier. Vous dites à un moment donné qu'il a une grande capacité à apprendre les langues, on verra lesquelles.
Oui.
Et donc, il a un mentor, le monsieur Lemonnier. Qui est-il, ce monsieur Lemonnier ?
Le docteur Lemonnier, c'est un personnage aussi absolument extraordinaire sur lequel il n'y a pas encore de biographie. C'est le premier médecin de Louis XV, parce que les rois avaient plusieurs médecins, donc ils sont hiérarchisés, donc lui il est le premier. Et après il va devenir le premier médecin de Louis XVI. Mais entre les deux, il a soigné, il a été le médecin des enfants de France, c'est-à-dire des frères et sœurs de Louis XVI et de Louis XVI quand ils étaient enfants.
D'accord.
Et donc il connaît toute la cour et en même temps, il est professeur de botanique au Jardin des Plantes à Paris, donc au Jardin Royal des Plantes, et il s'intéresse aux plantes exotiques. Il a des correspondants dans le monde entier. Il fait venir des plantes ou des graines de plantes d'Asie comme d'Amérique. Et il forme quelques botanistes qu'il envoie aussi ou qu'il fait envoyer par le roi aux quatre coins du monde.
Mais
il y a de quoi être admiratif. Mais je pense, alors j'en ai pas la preuve, mais en fait si, il y a un indice dans quelque part. Il est aussi en contact avec les fermiers du roi. Et il leur fait essayer des cultures nouvelles. Et il l'a fait essayer à André Michaud, on en est sûr. Il a fait essayer des cultures nouvelles. Et donc André Michaud, après avoir essayé ces cultures nouvelles sur sa ferme, je peux vous dire, le teff d'Abyssinie, qui est une plante fourragère dans les prairies, sur le plateau de Satory, qui est au-dessus du château, donc il a quand même quelques liens avec le médecin du roi, et il est enthousiaste il est enthousiasmé par toute son activité botanique, et il lui demande de le former.
D'accord. Alors, il va partir encouragé par Lemonnier, ou presque envoyé, on va dire.
Oui,
Mais c'est pas en mission diplomatique. Mais enfin, on va lui demander beaucoup de choses.
Ah oui, alors bon, pour son premier voyage, c'est pas tout à fait les mêmes conditions au premier voyage et au second voyage. C'est bien protégé par le médecin du roi. Il n'a quand même pas le parcours des autres, qui sont la plupart médecins, les autres botanistes. Lui, c'est... Bien qu'il soit un agriculteur aisé,
oui, c'est quand même... il va être un peu déçu des subsides qu'on va lui accorder.
Voilà, c'est ça. En fait, bien qu'il ait pu remettre un mot à Marie-Antoinette, il est accepté pour voyager, mais c'est pas Louis XVI qui prend en charge son voyage.
Il va pas rouler sur l'or.
C'est le frère de Louis XVI, le futur Louis XVIII, qui le sponsorise. Mais donc, pour quelque chose d'assez faible, en fait, on lui demande de faire ses preuves.
Bien. Mais alors, pas de mission diplomatique, certes, mais on lui demande de parler d'horticulture, d'observer scientifiquement les animaux domestiques, la faune sauvage. J'ai, entre guillemets, je redis à nos auditeurs qu'en Perse, il y avait encore des lions et des panthères. D'observer les insectes, les oiseaux, l'astronomie, les antiquités, les médailles et les pierres précieuses. Et vous notez quelque chose d'intéressant sur les pierres précieuses.
Ah ben oui, c'est toujours... on s'aperçoit que quand c'est le pouvoir royal, on ne sait pas très bien faire la différence entre ce qui est privé et ce qui est public.
Dans le pouvoir royal, forcément.
Voilà, oui, voilà. Mais donc, deux jours avant son départ en voyage, il reçoit une lettre qui lui demande de rapporter des rubis pour le roi.
Voilà, tout simplement.
Je dis pour le roi, non, c'est pour le commanditaire. Je ne sais plus si c'est le directeur des jardins du roi ou le frère du roi, mais on lui demande ça deux jours avant. Et donc, c'est quand même pas tout à fait une mission botanique de rapporter des rubis.
Non, pas du tout. Alors, on voit aussi qu'il écrit beaucoup, qu'il envoie des graines et des herbiers. Alors, je me suis dit, mais de quelle manière par le courrier? Et c'est vous qui... Alors voilà, c'est très intéressant.
Voilà,
ça.
Mais je donne l'explication.
Oui.
Surtout que j'ai trouvé un détail qui m'a assez ravi quand il est en Perse. Mais c'est pareil dans les autres pays qu'il traverse. Donc, il traverse la Syrie, la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak. Les courriers, ça marche d'une manière extraordinaire.
Au galop,
oui. C'est les fameux courriers tartares, comme on les appelle. Aujourd'hui, on dit tatars plutôt, mais c'est les tatars de Crimée, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps.
C'est des cavaliers émérites.
C'est exactement, des cavaliers émérites. Et... ils ont montré des services de, on peut dire, de messagerie postale dans toute la région.
Ils avaient mis ça
pour l'homme.
Place, hein,
oui. Ils ont mis ça en place. Alors après, moi, je suis pas spécialiste de ces messageries. Je sais pas comment ça se passe. Parce qu'il y a aussi des messageries en France. La Poste, ça existe depuis très longtemps en France.
Oui.
Et donc, il y a une coordination. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que les courriers arrive quand même de la Perse jusqu'à Versailles. Alors certains sont bloqués. Alors oui, alors je raconte aussi ça.
Parce que puis il y a quand même beaucoup
d'aléas,
de bagarres, de batailles, de choses perdues, volées, on ne sait pas.
Mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de choses quand même qui arrivent malgré les aléas de l'époque.
Étonnant. Alors il part avec Rousseau, qui est un parent de Jean-Jacques Rousseau. Alors on rit parce qu'il y a Michaud, on se dit tiens Michaud, on connaît un Michaud également, mais c'est pas le Michaud que l'on connaît. Rousseau, c'est pas le Rousseau qu'on connaît. Celui-là, il est consul à Bassora. Mais lui, il va résider surtout à Bagdad. Mais Rousseau, ça qui est drôle, il voyage avec une suite.
Oui, il voyage avec une suite, mais c'est parce qu'il est consul, et puis c'est aussi parce qu'il est avec sa femme, son bébé quand il voyage. Mais je précise, c'est le cousin issu germain de Jean-Jacques Rousseau. Il faut savoir que Jean-Jacques Rousseau était botaniste, s'est passionné pour la botanique, c'est comme ça qu'il est. Il en parle beaucoup dans Les rêveries du promeneur solitaire, mais il a écrit aussi un petit ouvrage, des lettres sur la botanique.
Donc une ouverture de la famille.
Mais son cousin était, et donc le consul, en fait c'était un franco-iranien, un franco-persan, il est né à Ispahan, il connaissait pas la France.
Il a étudié chez les jésuites d'Ispahan.
Voilà, exactement, il a été formé par les jésuites d'Ispahan, et je sais pas s'il est devenu catholique, on sait pas tout, mais en tout cas, parce que son père lui-même avait été joaillier du Shah de Perse. En fait, la famille Rousseau, le père de Jean-Jacques Rousseau était joaillier. Il était joaillier, bijoutier, horloger en Turquie. Il est venu pour la première fois en France en 1781.
Il est reparti avec.
Il avait travaillé pour la Compagnie des Indes avant, et là il a obtenu le titre de consul de France à Bassora, mais chargé des relations avec la Perse.
D'accord.
Et donc c'était le personnage le plus indiqué pour guider les premiers pas de Michaud.
Alors on est impressionné par l'itinéraire du voyage de Michaud. En page 3, là, au début de votre ouvrage, vous montrez une carte, et on se dit, mais à cette époque, alors il y a les moyens de transport qui n'étaient pas particulièrement confortables, mais il y avait aussi le climat. Et moi qui vous parle, je peux vous dire que le climat dans ces régions peut être très rude. Je me suis dit, cet homme avait une excellente santé.
Ah oui, il avait sûrement... Je pense que c'était un homme hors du commun au niveau physique. Et quand je dis hors du commun, je veux pas dire qu'il était tout à fait seul dans ce cas-là, mais il avait une santé de fer, ça c'est... C'est
oui,
sûr, il a échappé à 1000 dangers et...
Même à des épidémies. Hein.
À des épidémies et comment dirais-je, comme vous le soulignez, mais c'est incroyable comment il se comporte vis-à-vis des aléas climatiques.
Tout à fait, grand froid
comme grand chaud, et puis quand il traverse la Perse, il passe de l'un à l'autre.
Oui, il peut faire très froid en Perse, effectivement. Oui. Et les conditions d'hygiène, à un moment donné, il parle de l'eau, on frémit, et de l'eau qui a une odeur épouvantable, on pense au pétrole, non? Probablement.
Je n'y avais pas pensé, mais
dans le sud en particulier.
C'est dans la région. Je sais pas si c'est pétrolifère. Il faudrait que je vérifie entre la Syrie et l'Irak. C'est là un moment où effectivement il y a de l'eau.
Oui.
Mais de l'eau saumâtre, hein, je crois.
Alors il y a de l'eau saumâtre, mais à un moment donné, vous notez que il est écœuré par une odeur, une eau vraiment sombre, noire, et qui sent.
Oui, mais quand il arrive en Perse, au sud, sur le golfe Persique, c'est là qu'il voit une eau noire et qu'il décrit. Il y a du bitume qui coule par là, et donc effectivement.
Alors évidemment, il parcourt 800 km en 42 jours.
Oui.
Bon, ça fait, j'ai calculé à peu près 19 km par jour,
oui,
ce qui est pas mal.
Vin, oui.
Mais les Anglais le font en 10 jours. Alors, c'est...
Oui, alors, mais ça, c'est, l'explication est très simple. Lui, il est en caravane.
Oui.
Alors déjà, comme je l'explique, quand il part en Perse, mais... Pour aller en Perse, il doit traverser les déserts de la Syrie et de l'Irak. Et en fait, il va perdre 6 mois à Alep.
Oui. À attendre
qu'une caravane se forme. Parce qu'il faut du temps pour qu'une caravane se forme.
Il faut saisir l'opportunité.
Il n'y a pas d'horaire pour une caravane. Ça se forme en fonction des besoins de différentes personnes.
Oui, alors plusieurs fois, on se rend compte qu'il est bloqué pour cette raison-là.
Oui.
Et alors, attendez, j'avais
noté
à un moment donné, ça m'amusait, un religieux dominicain qui attendait depuis plus d'un an l'occasion de gagner la côte pour se rendre à Isfahan.
Oui, et il avait une... Et c'est ça, il était envoyé pour être vicaire général à Isfahan.
Oui, voilà.
D'ailleurs, j'en profite pour demander aux auditeurs si vous savez quel est le religieux dominicain qui a été vicaire à Isfahan en 1783.
Alors,
dites-le-moi, parce que je n'ai jamais trouvé son nom.
À Régis Pluchet via Radio Présence. Voilà. Quand ils voyagent en caravane, certaines sont des caravanes très importantes, et on imagine la lenteur, 180 chameaux, jusqu'à 180 chameaux.
Oui.
Et on comprend pourquoi ils voyagent en caravane, parce que finalement, les régions qu'ils traversent sont très instables.
Exactement. Surtout, donc, c'est l'Empire Ottoman, et dans l'Empire Ottoman, donc, c'est la Turquie qui domine la Syrie et l'Irak. Et il y a beaucoup de tribus rebelles, tribus arabes, mais où il y a aussi les Kurdes, il y a aussi d'autres tribus, les tribus chiites du sud de l'Irak. Et donc il y a beaucoup de rebelles, mais c'est assez étonnant aussi la façon dont ça se passe. C'est des rebelles qui sont humains. Et avec les Européens, ils prennent plus de précautions. Et les témoignages, comme ceux que j'ai vus dans les manuscrits, les documents de l'époque, si vous faites... c'est des gens, donc c'est des tribus surtout nomades, mais qui ont le sens de l'hospitalité. Et pouvez... être arrêté par une tribu rebelle quand vous êtes dans une caravane, vous allez être dépouillé de tout. Mais on vous laisse votre chemise quand même et des vêtements, et on vous donne un peu d'eau. Et on vous donne un peu d'eau, et puis si 50 km plus loin, vous rencontrez le chef qui vous a pris vos affaires, il va vous recevoir, il va vous héberger, il va vous fournir des vêtements, et vous allez pouvoir repartir. Parce que oui. Ça, c'est l'hospitalité.
Oui, tout à fait. Régis Pluchet, je vous propose une pause musicale, et nous reprenons tout de suite après.
Je vous parle d'un monde qui n'existe pas, un monde où les frontières ne diviseraient pas la moindre différence comme unique richesse, sans barrière, sans bannière, inutile forteresse. Partager le même soleil, s'éveiller faudra construire, que tant d'hommes avant nous ont rêvé de bâtir, infantile utopie ou combat d'une vie, les ténèbres ou l'amour, c'est à nous de choisir. Partager le même soleil, s'éveiller sous le même arc-en-ciel, espérer la même lumière, redessiner d'autres frontières. Où sont les différences dans les cœurs des enfants, de là-bas ou d'ailleurs, d'hier ou maintenant? L'entrée de mon rang, de mon sang, c'est un frère. Il n'y a vu du ciel aucune ligne sur la terre.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Régis Pluchet qui vient nous parler de son ouvrage intitulé « L'extraordinaire voyage d'un botaniste en Perse ». Il s'agit d'André Michaud qui a voyagé de 1782 en 1785. C'est un ouvrage édité par Privat. Et donc, un ouvrage passionnant, je l'ai déjà dit, car il raconte un voyage qui est quand même tout hors du commun. Il y a beaucoup, mais ce qui m'étonne, moi, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui se déplaçaient.
Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de gens qui se déplaçaient. Ah, oui. C'est aussi une découverte pour moi de le nombre de personnes qui se déplaçaient.
Oui.
Mais hélas, on voit aussi beaucoup de voyageurs aujourd'hui qui font le même chemin. Je pense à tous ces migrants. Et j'ai été très étonné, j'ai vu un film il y a un an à la télévision qui présentait des Afghans qui venaient en Europe Et il passait, quand il gagnait l'Iran, il traversait l'Iran quasiment par les routes que André Michaud a traversées.
Mais en voiture, non, ou en camion?
Non, à pied. Bien sûr, avec des passeurs. Il faisait des centaines, si ce n'est des milliers de kilomètres à pied, et avec moins de matériel que lui n'avait. Sauf que la différence, c'est qu'ils ont un téléphone portable.
Oui, d'accord. Alors, tout à l'heure, avant la pause musicale, nous parlions du voyage en caravane. Souvent, ils avaient des laissés-passer qui aidaient peut-être parfois les laissés-passer. Encore fallait-il que ceux qui les arrêtent sachent lire.
Oui, mais il y avait quand même beaucoup d'interprètes, soit lui-même, bon, il avait appris un peu l'arabe.
Ah oui, les drogmans, excusez-moi, je vous ai interrompu, vous appelez ça, on appelle ça là-bas les drogmans.
Oui, les drogmans, ce sont les interprètes, oui.
D'accord.
Mais il faut préciser, je pense que le terme est toujours utilisé, c'est un terme qui a donné en français, donc je crois que c'est un terme turc ou persan, qui a donné en français le mot truchement. Hein, truchement, c'est par le biais de quelqu'un.
Ah, d'accord, hein. Oui, oui.
Il y avait une école d'interprètes pour les Français, d'interprètes français, qui était à Constantinople, hein, Et cette école d'interprètes, donc c'est Ankara aujourd'hui, enfin oui, c'est la capitale de la Turquie, et cette école d'interprètes avait, si je puis dire, son équivalent à Paris, et l'équivalent à Paris s'appelle aujourd'hui l'école des langues orientales.
Oui. Alors quand vous parliez, vous dites qu'il était doué pour les langues, André Michaud, quelle langue parlait-il?
Il parlait l'anglais. On sait pas tout, mais oui, on sait qu'il parlait l'anglais. On sait qu'il avait appris l'arabe et le persan. Après, je peux pas vous dire plus, et je sais pas quel est le niveau il avait, mais j'ai trouvé à Charleston aux États-Unis sa grammaire arabe, qui est une grammaire arabe latin. Donc il avait fait du latin et du grec. Et sa grammaire arabe lui venait de l'évêque de Bagdad.
Hein, Alors, évidemment, il avait des laissés-passer, il avait un ou plusieurs drogmans, mais il n'empêche qu'il a été fait prisonnier un temps, mais surtout, catastrophe, on lui a volé ses instruments.
Une partie seulement. Et peut-être...
Ça lui a manqué quand même. Hein,
oui, mais alors là où aussi c'est étonnant, en fait, les instruments qui lui ont manqué, c'est pas des instruments de botanique. Hein. C'est instruments de mesure de la température, de la hauteur, de la longitude, de la latitude, pour faire des observations géographiques. Donc ça lui a manqué, mais il a pu faire ce qu'il voulait comme observation botanique quand même. Voilà. Enfin bon, comme vous le soulignez tout à l'heure, il fallait qu'il soit compétent un peu en tout, donc il est naturaliste et pas simplement botaniste.
Alors, il rencontre beaucoup de monde, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de voyageurs, mais il y a également beaucoup d'Européens installés, des représentants de la France ou des religieux. Et alors, on va parler aussi de religion, parce qu'il y a des jésuites, il y a des capucins, mais surtout, André Michaud parle des carmes.
Oui, il a rencontré des carmes. Donc il y avait apparemment plusieurs couvents de carmes à Bagdad et à Bassora, et c'est là il a logé une partie de son séjour dans ces deux villes était chez ces carmes où il était en relation avec eux. Il a voyagé une fois avec un carme d'ailleurs avec qui l'appréciait pas beaucoup. Mais c'est des gens qui vivaient dans des conditions très difficiles.
Hein. Difficile, ouais.
Je pense qu'ils n'étaient pas nombreux dans les couvents, ils étaient peut-être 10 personnes, et ils étaient envoyés un peu en mission, mais ils n'avaient pas grand-chose à faire en fait. Et ils étaient là d'abord parce que la France jouait un rôle particulier. La France avait passé un accord avec l'Empire ottoman sous François Ier, qui donnait à la France la mission de protection des chrétiens et des lieux saints dans l'Empire ottoman, notamment de Jérusalem. Hein, et donc il y avait pas mal de missions religieuses dans cet empire.
C'était une présence forte.
Je pense que les Français étaient parmi les plus présents, même s'il y avait d'autres religieux.
Il y avait quand même les Anglais, et puis il y a toujours des rivalités avec les Anglais, ça c'est drôle, en particulier pour le commerce.
Oui, bien sûr, il y avait des rivalités, mais là, c'est aussi parce que ça se situe dans le cadre de la guerre d'indépendance américaine. Alors ça, on l'imagine pas, mais la guerre d'indépendance américaine, à laquelle je pense que beaucoup de monde sait que les Français ont joué un rôle important et ont joué un rôle décisif dans les victoires des Américains sur les Anglais, eh bien, les dernières batailles se sont faites en Inde. Dans les golfes de l'Inde, et là, c'est les Français ont battu les Anglais, et la Perse, et puis la Syrie, c'est la route de l'Inde, hein, à l'époque. Donc, il y a pas mal de relations. Et donc, c'est pour ça que quand il arrive à Alep, c'est là que je dis, il y a le consul anglais fait, puisque la guerre n'est pas terminée, elle va se terminer quelques mois plus tard, le consul anglais fait pression sur les autres Européens pour qu'ils viennent à sa table et qu'ils n'aillent pas rencontrer le consul français.
Oui, voilà. Il y a des réalités. Bon, c'est vrai que sur le plan commercial, ils se débrouillaient déjà pas mal quand même.
Oui, de toute façon, les Anglais étaient bien meilleurs. Oui. Et puis, il y avait eu peu avant la guerre de 7 ans où la France avait perdu
du temps et de l'argent.
Et puis ses colonies en Inde. Oui. Donc, son accès à l'Inde était quand même limité. Elle en récupérera un petit peu après, à la fin de la guerre, l'indépendance des États-Unis. Oui.
Alors, bon, oui, on va passer sur le temps où il a été prisonnier, pas très longtemps quand même, mais enfin, il a subi ça. Il note des rivalités entre les évêques, des rivalités entre les diplomates, ce dont vous venez de parler. Oui. Bon, mais ça, c'est quand ce sont des petits microcosmes, oui. Évidemment, donc fatalement.
Je peux quand même dire une chose, puisque je suis ici dans une radio catholique, même si mon ouvrage n'est pas du tout un ouvrage religieux, mais je parle un petit peu de la sociologie religieuse.
Oui.
Et il se trouve que il voyage avec un évêque, en tout cas il est à Alep, avec l'évêque de Babylone, qui vient d'être nommé, qui n'ira jamais à Babylone d'ailleurs, et cet évêque a obtenu la conversion de certains chrétiens orientaux, à l'époque on les appelle les jacobites, qui étaient donc indépendants de l'Église catholique, les a ramenés dans le giron de l'Église catholique. Oui. Alors dans des conditions diplomatiques assez douteuses, comme je le raconte, mais j'ai quand même, je pense que c'est important parce que comme de montrer que ça a encore à voir avec la vie aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui la communauté qui est l'Église catholique de rite chaldéen, donc rattachée à Rome, et que là c'est des gens, c'est pas du tout le même contexte aujourd'hui. En ce moment ils sont en danger, voilà. Ouais, donc même si au départ, de toute façon, je raconte les manœuvres d'un évêque, mais ça n'empêche pas que c'est tout un courant, ça s'est pas fait en une seule fois, il y avait déjà eu des relations, des approches entre l'Église catholique et cette Église-là.
D'accord.
Bon, il y a eu une scission dans l'Église dans laquelle il était, ils n'étaient pas tous d'accord, hein, c'est comme aujourd'hui. Mais voilà, je crois que je montre aussi dans mon livre, et j'ai tenu à souligner certains détails comme celui-là, qui n'avait pas forcément à voir avec la botanique, mais parce que ça témoigne de... Que les problèmes d'aujourd'hui s'enracinent aussi dans cette histoire.
De même qu'on n'aura pas le temps d'en parler parce qu'il y a d'autres. De même que les sunnites et les chiites étaient évidemment présents et différents, jugés différemment, et ça aussi c'est intéressant, mais on sait que c'est le problème actuel dans le Moyen-Orient.
Voilà, hein, j'en dis quelques mots et j'en dis même un peu plus que ce que disait notre botaniste, qu'elle essaie très peu d'écrire, et surtout, en fait, sur son passage en Perse, il n'y a presque rien et son journal est incomplet. Mais par contre, il y a des écrits d'autres personnages qui étaient avec lui, et j'ai tenu à souligner ce qui concernait les rapports entre sunnites et chiites.
Alors, évidemment, il est là en tant qu'herboriste, et il est parfois un peu déçu, en matière d'arbres en particulier.
Ah ben notamment quand il traverse les déserts et quand il traverse la Perse, puisqu'il va du sud au nord, et ben bon, moi je n'y suis pas allé, mais les monts qu'il traverse sont des montagnes, des hautes montagnes rocheuses et assez désertiques. Il y a quelques arbres, mais c'est surtout des arbustes.
Il a quand même trouvé 400 espèces nouvelles de plantes.
C'est ce qu'on dit, mais donc j'ai lu ça dans les écrits de l'époque.
Hein. Oui, oui.
Mais le bilan n'a jamais été fait, donc je ne sais pas. Moi, j'en ai dans les différents écrits, j'en ai recensé une espèce, une centaine d'espèces.
Hein. Je lis un bref passage. J'ai vérifié par mes observations personnelles que ces contrées étaient des régions d'origine des arbres fruitiers, des légumes, des épices, des plantes fourragères et des plantes ornementales cultivées en Europe. En effet, j'ai reconnu dans la forêt des environs de la mer Caspienne le noyer, la vigne et le cerisier dans les prairies naturelles, un froment indigène, le grand épeautre, et les fourrages appelés artificiels, luzerne, trèfle. Dans les montagnes, j'ai récolté des légumineuses, pois chiches et des plantes aromatiques, oignons, et j'ai aussi vu les lys et les tulipes de nos jardins à l'état sauvage. Et
donc c'est bien ça, même l'épeautre, c'est à l'état sauvage, toutes les plantes que vous venez de citer, enfin, bon, sauf quand il dit qu'il en voit aussi dans les jardins, c'est à l'état sauvage.
Voilà, mais ce qui explique, parce que dans un premier temps, je me suis dit, mais comment il sait que ça vient de là? Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que... Mais non, puisqu'il les trouve à l'état sauvage, c'est que donc...
Exactement, ben c'est voilà. Exactement. Bon, mais on n'en est qu'au début de l'histoire de la botanique ou de l'histoire des plantes alimentaires. On sait beaucoup de choses aujourd'hui. Ça se vérifie, c'est bien vérifié, mais il y a eu d'autres voyageurs avant lui aussi, c'est pour ça qu'il peut l'affirmer. C'est bien vérifié aujourd'hui pour certaines plantes, mais je pense que c'est erroné pour d'autres plantes. Ceci dit, j'apporte quand même une précision. Il traverse la Perse du nord au sud, et la plus grande partie de son voyage, il trouve quelques plantes, mais très peu. C'est pour ça qu'il est déçu, parce qu'il est dans des zones qui sont assez arides. Par contre, il est étonné de la beauté des jardins qu'il peut voir. Mais c'est quand il arrive au bord de la mer Caspienne, là, c'est un climat méditerranéen, humide. Voilà. Et c'est là tout ce que vous venez de citer.
Voilà. Alors, hélas, il nous reste très peu de temps, Régis Pluchet. Très peu de temps, on aurait aimé parler d'Alep, de Shiraz, d'Isfahan, qui découvre. On aimerait parler du commerce des dates, très important, de tas de choses. Peut-être pour terminer, l'importance de quelque chose qui n'a pas réalisé peut-être, la découverte de ce qu'on appelle le caillou Michaud, qui est une pierre votive. Et alors là, il a ramassé, ça a eu une idée formidable, enfin il a eu le bon réflexe, parce que c'est quelque chose qui nous a aidé beaucoup à découvrir.
Ah oui, ça c'est des choses étonnantes. Donc un botaniste, il s'intéresse aussi à tout ce qui est antiquité, c'est à la mode à son époque les antiquités, ça s'appelle les antiques, et donc il a trouvé ce caillou près de Bagdad, et il l'a ramené en France, et c'est considéré, donc c'est une pierre sculptée avec des figures mythologiques, plus des écritures cunéiformes, et cette pierre est considérée comme le premier monument rapporté en Europe avec des inscriptions cunéiformes.
J'ai vu
et
une
elle
photo,
est exposée
c'est une
la
très belle
bibli...
pierre.
C'est une très belle pierre. Oui, ouais. Elle n'est pas très grande, hein, ça fait 50 cm de haut, ouais. Et c'est exposé à la Bibliothèque nationale dans un petit musée où il y a peu de choses, mais qui est ouvert à tout le monde, et ça s'appelle le musée du cabinet des médailles, monnaies et antiques. Hein.
Voilà, alors écoutez, malheureusement, voilà, il est temps qu'on s'arrête. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses encore à raconter. On lit ça comme un livre d'aventure. Merci Régis Pluchet. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de l'extraordinaire voyage d'un botaniste en Perse. Il s'agit d'André Michaud. C'était au XVIIIe siècle, quelques années avant la Révolution française, c'était édité chez Privat. Vous pouvez ajouter quelque chose?
Oui, parce que je vais rapidement dire qu'il est, hélas, sauf des spécialistes, il est un peu oublié en France. Il n'y a que deux villes qui ont donné en France son nom à une rue, et je voulais souligner qu'il y en a une, c'est à Balma.
Si
vous passez à Balma, ayez une pensée pour lui quand vous passerez à l'esplanade d'André Michaud.
Voilà, on dit ça aux Toulousains. Merci Régis Pluchet.